Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venu Esprit Saint. Remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc on va avancer dans ce document, je vous l'ai dit, qui est tellement important, qu'on appelle le serment antimoderniste, qui est ce document, ce serment que doivent prêter tous les futurs prêtres, les évêques, avant tous les professeurs de séminaire et les professeurs des universités catholiques. Donc je répète ce qu'on a déjà vu ensemble, donc n'oubliez pas que le moderniste c'est quelqu'un qui a une cervelle en bouillie. Plus capable de penser droit. C'est pour ça qu'on peut dire pratiquement, c'est triste à dire mais c'est un peu vrai, qu'un moderniste est inconvertissable. C'est un peu comme un musulman. Un musulman dans son milieu est inconvertissable. Il faut sortir de son milieu pour qu'on puisse se convertir. C'est pareil pour un moderniste parce qu'ils ont une façon de penser qui est tellement loin de la réalité qu'ils sont plus capables d'utiliser leur intelligence pour découvrir le vrai. Et n'oubliez pas qu'a dit Saint Pédis. Saint Pédis a expliqué que le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Il y a toutes les bêtises qui ont été dites au cours de l'histoire de l'Église par les différents ennemis de l'Église. Vous résumez tout ça, c'est le modernisme. Alors, je vous ai déjà expliqué, j'insiste là-dessus parce que les gens sont souvent un peu étonnés par ça. Le mot choisi n'est pas très bon. Moderniste, ça donne l'impression que c'est des idées modernes. Je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas du tout des idées modernes. Il ne faut pas croire que ces idées qui actuellement sont en train de détruire complètement les hommes d'église viennent des temps modernes. Pas du tout, c'est des vieilles idées, sont vieilles comme le monde ces idées. C'est surtout les idées du protestantisme. Les idées du protestantisme, c'est 16e siècle. Bon. Les idées du protestantisme qui après vont passer dans la vie politique. Qui est-ce qui va faire passer les idées du protestantisme dans la vie politique? Qui est-ce qui va prendre les idées du modernisme et faire passer ça dans la politique de tous les jours? La franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui va prendre le protestantisme. Protestantisme, c'est quoi? Ça veut dire protestantisme. Je proteste, ça veut dire quoi?
La soumission.
Je ne servirai pas, tout simplement. C'est le mot de guerre, le cri de guerre du démon. Je ne servirai pas. Un protestant, quelqu'un qui proteste. Contre qui? Contre quoi? Contre toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Je n'en fais qu'à ma tête. C'est ça, un protestant. Eh bien, donc, les grandes idées de Martin Luther, elles se résument à trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'a fait la franc-maçonnerie? Elle a repris les mêmes mots, liberté, égalité, fraternité. Elle a sorti ça d'une religion protestantiste pour mettre ça dans la vie politique. Et quelles sont les conséquences de ces idées du protestantisme? Le protestantisme amène à la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie amène à quoi? Non, qu'est-ce qui va suivre immédiatement la franc-maçonnerie, c'est quelle année?
1717.
1717. Quelle est la première conséquence de 1717? 1789?
Ah, oui.
Ben, évidemment. Donc, vous avez le protestantisme, 1517, qui prépare le terrain à la franc-maçonnerie, 1717, qui amène la révolution, 1789. Bon. Il faut savoir aussi que 1789, c'est la deuxième révolution. Il y en a une avant. Laquelle?
Les États-Unis.
Les États-Unis, exactement, 1776. Il faut bien comprendre toutes ces choses-là, parce que tout ça, c'est uni. Quelle est la différence entre la révolution de 1776 aux États-Unis et la révolution de 1789 en France?
Les protestants, les pays catholiques.
Non, c'est pas ça. La différence, c'est que la révolution de 1776 aux États-Unis est une révolution non sanglante. La révolution de 1789, c'est une révolution sanglante, ils ont sorti la guillotine et puis ils ont coupé le cou à tous les catholiques sur lesquels ils ont pu mettre la main. Pourquoi est-ce que la pourquoi est-ce que la révolution protestante, la révolution américaine est non sanglante, justement. C'est passé comme être à la poste, la révolution aux États-Unis. Washington est arrivé avec les pères fondateurs des États-Unis, et les idées de la franc-maçonnerie sont passées comme une lettre à la porte. À la poste, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu d'opposition là-bas?
Parce qu'il y a les protestants.
À cause du protestantisme, justement. Les États-Unis étaient un pays d'inspiration protestante. N'oubliez pas qu'au départ du protestantisme américain, c'est quoi? C'est les Anglais, les Irlandais qui quittent. Les Irlandais étaient catholiques, puis une grosse influence protestante. Et toute la... Ça aussi, on ne sait pas. On ne sait pas au courant de ces choses-là. Après la guerre de sécession, ça a été la lutte entre l'esprit protestant contre l'esprit catholique traditionnel. Vous voyez? Donc, vous avez bien comprendre ça. Première étape, 1717, protestantisme. Deuxième étape, Première étape, 1517, protestantisme. Deuxième étape, 1717, la franc-maçonnerie. Troisième étape, 1776, 1789, révolution. Révolution française, qui va entraîner toute une série de révolutions. Après, il y a 1848, après, il y a 1917. Mais là, on reste encore au niveau politique. Ces révolutions, d'abord, dans politique, vont entraîner une révolution dans l'Église. Parce que les mêmes idées qui vont détruire la société civile vont se rentrer dans l'Église catholique pour détruire la société ecclésiastique. Et ça, c'est quoi? C'est Vatican II, 1965. Vatican II, c'est quoi? Vatican II, c'est les idées de 1517, les idées de 1717, les idées de 1789. C'est pour ça que Ratzinger avait dit que Vatican II, c'est l'introduction de la révolution dans l'Église. La révolution française rentre dans l'Église avec les idées de liberté, d'égalité, fraternité. La seule différence, c'est quoi? Ils ont changé les mots. Au lieu de liberté, ils parlent de liberté religieuse, liberté de conscience, c'est la même chose. Au lieu de fraternité, c'est la collégialité ou l'écuménisme. L'écuménisme plutôt, et l'égalité, c'est l'écuménisme. Donc c'est l'écuménisme, la collégialité et la liberté religieuse qui introduisent dans l'Église les idées mêmes de la Révolution, les idées mêmes de la franc-maçonnerie, les idées de Luther. Alors tout ça est résumé justement dans le modernisme. Qu'est-ce qu'a fait le modernisme? Rappelez-vous la définition de Saint-Pilice, égout collecteur de toutes les hérésies. Donc c'est le modernisme, c'est les idées de 1517, le protestantisme, mélangées aux idées de la franc-maçonnerie 1717, mélangées aux idées de la Révolution américaine 1776. On ajoute à ça encore les idées de la Révolution française 1789, puis toutes les révolutions qui ont suivi, et tout ça va finir par donner une espèce de bouillie pour chat qu'on appelle le modernisme. Donc c'est une façon de penser qui est complètement différente. C'est pour ça que c'est tellement difficile de convertir un moderniste, parce que leur cervelle n'est plus capable d'atteindre le vrai. Donc rappelez-vous ce qu'on a déjà vu ensemble, je répète rapidement, constamment répéter les choses. Je reconnais en tant que catholique, justement, que Dieu peut être connu et démontré à la lumière naturelle de la raison. N'oubliez pas ça. Hein? Donc, est-ce qu'on a besoin de la foi catholique pour croire en l'existence de Dieu?
Non.
Non, simplement par la raison, on peut y arriver. Vous constatez, vous voyez un beau coucher de soleil, ça suffit. Quelqu'un qui a un peu de raison, un peu d'intelligence, dit s'il y a une telle beauté dans la création, s'il y a bien un créateur derrière. S'il y a une montre sur la table, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait la montre. Bon, deuxième point. Je reconnais les œuvres de la révélation, qui est manifestée par les miracles et les prophéties. Comment Dieu a-t-il manifesté et prouvé sa divinité? Par les miracles et les prophéties. Il a repris toutes les prophéties, dont certaines étaient très anciennes. Quelle est la première des prophéties? Qui est la plus ancienne de toutes les prophéties? Ne répondez pas tous en même temps.
La révélation dans le Seigneur Jésus.
Avant, bien avant.
Une vierge donnera la vie.
Et presque ça, on n'est pas loin. La première prophétie.
Daniel.
Non, c'est la Genèse. C'est le péché originel. Ipsa contre elle t'écrasera la tête. C'est un futur. Je mettrai une inimitié entre toi et ta descendance et sa descendance. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est pas une prophétie, ça? C'est sûr que c'est une prophétie. En fait, déjà, là est annoncé quoi? C'est annoncé le Messie. Mais le Messie va arriver 7000 ans après. Vous voyez? Donc la première prophétie, c'est ça. Donc, comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il prouvé sa divinité? Il a prouvé sa divinité par les miracles et les prophéties. Troisième point. Je crois que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée directement par le Christ en personne. Les modernistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Que ce n'est pas le Christ qui a créé l'Église. L'Église s'est créée au fur et à mesure, avec le temps, avec les papes qui ont inventé l'Église, littéralement. D'accord ? Ensuite, quatrième point, je rejette l'invention hérétique de l'évolution des dogmes. Pourquoi il n'y a pas besoin d'évolution des dogmes ? Il n'y a pas besoin de faire évoluer les dogmes parce que Dieu ne change pas. Hein, Dieu a toujours été. Donc on n'a pas besoin de mettre la religion catholique au goût du jour. Il n'y a pas besoin d'adapter l'Église catholique à l'esprit moderne. Il faut adapter l'esprit moderne à l'Église catholique. Il n'y a pas besoin d'adapter l'Église. Ça, c'est encore une idée complètement folle qu'on entend tout le temps aujourd'hui. Il faut adapter l'Église au monde moderne. Il n'y a pas besoin d'adapter l'Église au monde moderne puisque l'Église ne change pas. Par contre, il faut adapter le monde moderne à l'Église. D'accord ? Ensuite, on avance. La foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient. Bon, pour les modernistes, le modernisme détruit toute la tradition, ne garde que les sentiments. Je sens que. Hein? Je pense que. Mon petit cœur vibre parce qu'il y a telle ou telle chose que j'ai entendue qui me plaît, donc ça doit être vrai. Non. Le cœur n'a rien à voir avec la foi. Ça, c'est important aussi à comprendre. On ne garde pas la foi avec le cœur. La foi travaille avec le cœur ou avec l'intelligence ? Avec l'intelligence, évidemment. Parce que le cœur change, le cœur évolue, ça monte et ça descend tout le temps, d'accord ? Donc, les sentiments n'ont rien à voir avec ça, c'est très important. Parce que parfois, des gens me disent, monsieur l'abbé, j'ai communié, j'ai rien senti. Ben, évidemment, vous n'avez rien senti, pourquoi ? Il faut faire attention quand on prépare les enfants aux premières communions, parfois on peut faire des grosses bêtises. Le bon Dieu va rentrer dans ton cœur, tu vas l'écouter. Alors le gamin, il communie, il écoute, il n'entend rien du tout. Il me dit, mais alors on m'a roulé. Il faut expliquer, attention, Dieu va être dans ton cœur, il faut l'adorer, mais tu ne vas pas l'entendre comme une personne humaine extérieure parce qu'il va complètement prendre possession de ton cœur. D'accord ? Donc, un antimoderniste, quelqu'un qui lutte contre le modernisme, doit aussi adhérer à toutes les grandes condamnations. Et rappelez-vous les trois grandes condamnations du modernisme, ça c'est la première, enfin c'est pas la première dans le temps, la première dans le temps c'est le décret Lamentabili. La deuxième déclaration de condamnation du modernisme, c'est la grande encyclique Pascendi. Bon. Et la troisième, c'est le serment antimoderniste. Bon. Lamentabili, c'est juillet 1907. Pascendi, c'est septembre 1907. Décret antimoderniste, serment antimoderniste, septembre 1910. Vous voyez ? Donc ces choses doivent être bien connues. Bon. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui parce qu'on est, encore une fois, on est contaminé par les idées modernes. C'est pour ça que quand j'ai commencé mon cours sur les actes du magistère, et quand j'ai donné deux, je commence par une longue introduction pour aider les gens à comprendre les textes. Si vous donnez un texte comme ça, brut de décoffrage en quelque sorte, vous n'allez rien comprendre. Parce que pour comprendre un texte de ce genre, la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient. Donc, c'est l'hébreu ça, les gens ne comprennent pas. Donc il faut leur donner les moyens intellectuels et psychologiques de comprendre les encycliques pontificales. Pourquoi les encycliques pontificales sont-elles difficiles à comprendre ? J'ai déjà expliqué ça. Qui est-ce qui peut répondre à cette question ? J'ai expliqué au moins 10 fois.
Parce que c'est expliqué pour les évêques à la base.
Exactement. Elles sont destinées aux évêques. Les encycliques ne sont pas écrites pour les fidèles directement. Elles sont écrites pour les évêques qui ont une formation philosophique. Ensuite, les évêques réunissent leurs prêtres et leur expliquent l'encyclique. Et les prêtres traduisent aux fidèles. Bon. Vous savez, dans certains pays, par exemple, lorsque aux États-Unis, en 1864, est paru l'encyclique de Quanta Kura, la grande encyclique du pape Pie IX, de condamnation de la liberté de conscience, elle a été envoyée à tous les évêques. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les évêques américains ? Ils ont ouvert le tiroir, ils ont mis l'encyclique dedans, ils ont fermé le tiroir et pas un mot fidèle. Les fidèles américains n'ont jamais entendu parler dans ces kicks en quant à quoi. Pourquoi ? Parce que les évêques américains ne voulaient surtout pas que les fidèles entendent parler de l'encyclique, parce que l'encyclique quant à quoi, c'est la condamnation à la liberté de conscience. Sur quoi sont basées les États-Unis ? Justement sur la liberté de conscience. Donc le pape condamne ce qui est la base même du système américain. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est tellement difficile dans certains pays. Aussi, en tant que catholique, je refuse de considérer qu'il peut y avoir une contradiction entre l'histoire et la foi, entre la science et la foi. Pourquoi ? Parce que la lumière qui éclaire la foi est une lumière divine. La lumière qui éclaire la science est une lumière humaine. Et il ne faut pas avoir peur de l'histoire, il ne faut pas avoir peur de la science. Tout simplement parce que la lumière divine est au-dessus de la lumière humaine. Donc si la science raconte des choses qui s'opposent à la foi catholique, c'est tout simple, c'est la science qui se trompe. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Après, vous prenez la formule élémentaire, l'acte de foi, je crois fermement toutes les vérités que vous enseignez par votre Église, parce qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Alors vous allez me dire, mais avec le monde moderne, maintenant on sait qu'il y a des contradictions. Il n'y a aucune contradiction avec la foi. Aucune, ce n'est pas possible. Ils n'ont jamais trouvé la moindre contradiction entre la foi et la science. S'il y a une contradiction, c'est la science qui se trompe. D'accord ? Je condamne aussi, dit Saint Pélice, rejette tous ceux qui disent que le chrétien a une double personnalité, celle du croyant, celle de l'historien. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans le monde moderne. Quand je vais à l'église, je suis catholique. Et quand j'enseigne à l'université ou à l'école, je suis païen. Donc je suis catholique le dimanche de 10h à midi. Dans la semaine, je suis païen. Ça, c'est le monde moderne, ça. C'est pas seulement le monde moderne, beaucoup de gens sont comme ça. D'accord ? Quand je vais communier le dimanche, je suis comme un petit ange magnifique. Et puis dans la pratique, on vit comme des païens pendant la semaine. Attention, il faut bien comprendre ça, justement, qu'il ne peut pas y avoir, que la foi doit imprégner tout ce qu'on fait. Donc la foi doit imprégner l'histoire, la foi doit imprégner l'art, la foi doit imprégner toute forme, la médecine et tout l'art moderne doit être imprégné d'esprit de foi. Pourquoi ? Parce que Dieu a quelque chose à dire là-dedans. Vous voyez ? Donc les gens modernes, qu'est-ce qu'ils pensent ? Que dès qu'on sort de l'Église, le bon Dieu n'a plus rien à dire. L'Église n'a plus rien à dire. Comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle la philosophie fausse qui consiste à dire qu'en dehors de l'Église, Dieu n'a plus rien à faire. Comment ça s'appelle ça ?
Laïcisme.
Hein ?
Laïcisme.
Exact, c'est laïcisme. C'est bien, Thomas. C'est laïcisme. La République laïque, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, République laïque ? Ça veut dire Dieu a rien à dire en matière politique. Voilà ce que ça veut dire. On est une république laïque, ça veut dire une république dans laquelle Dieu n'a rien à dire. On tolère Dieu dans la maison, mais pas dehors, pas à l'extérieur. Et ça se traduit par la formule, il faut séparer l'Église et la politique. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué. Si on sépare l'Église et la politique, ça veut dire que Dieu n'a plus rien à dire en matière morale. Par exemple, de savoir, je ne sais pas moi, si on accepte le divorce dans un pays ou qu'on accepte l'avortement dans un pays, ça regarde la politique, ça. Et donc, si je dis que Dieu n'a rien à voir là-dedans, ça veut dire que Dieu n'a plus rien à dire, l'Église n'a plus rien à dire contre l'avortement, n'a plus rien à dire contre le divorce, n'a plus rien à dire contre la pornographie, bien sûr que non. D'accord ? Après, je réprouve également la manière moderne de juger et d'interpréter l'Écriture sainte. Rappelez-vous que l'Écriture sainte doit être interprétée comme l'Église l'a toujours interprétée. Vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de passages d'Écriture sainte, il y a une partie évidente, puis il y a une partie cachée, qui s'appelle le sens caché, justement, d'Écriture sainte. Qu'est-ce qui se rappelle les trois
Sens allégorique.
Sens allégorique, magnifique.
Le sens analogique.
Analogique de Le sens anagogique.
Anagogique.
Allégorique. Sens tropologique plutôt, allégorique, tropologique et anagogique. L'exemple c'est Jérusalem. Jérusalem au sens historique c'est quoi ?
C'est la ville.
La ville de Jérusalem évidemment. Au sens, après il y a trois autres sens cachés. Ouais. Sens allégorique. Allégorique ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jérusalem représente quoi ?
Jérusalem c'est la...
Non,
l'ordre.
Ça représente l'Église. L'Église, c'est le sens allégorique. Le sens moral ou tropologique. Jérusalem représente notre âme. Et le sens anagogique, c'est par rapport à la fin du temps. Jérusalem représente la Jérusalem céleste, donc le paradis. Vous voyez ? C'est ça l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Quand vous parlez de ça aux gens modernes, ils poussent des cris de putois, parce qu'ils ne veulent plus entendre parler des pères de l'Église. Parce que ceux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte sont les pères. D'accord ? Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors, on en est là, justement. Je rejette en outre, donc quatrième paragraphe de la page 2 sur mon texte, hein. Je rejette en outre l'opinion de ceux qui tiennent que le professeur de discipline historico-théologique ou l'auteur écrivant sur ces questions doivent d'abord mettre de côté toute opinion préconçue à propos soit de l'origine surnaturelle de la tradition catholique, soit de l'aide promise par Dieu pour la conservation éternelle de chacune des vérités révélées. Que les écrits de chacun des pères sont à interpréter uniquement, disent les modernistes, par les principes scientifiques, indépendamment de toute autorité sacrée et que liberté critique en usage dans l'étude de n'importe quel document profane. Qu'est-ce que disent les modernistes ? Les modernistes disent, c'est la science qui dirige. D'accord ? C'est la science qui dirige. Le catholique, au contraire, qu'est-ce qu'il répond ? Il va dire, attention, ce n'est pas les principes scientifiques qui vont diriger tout. C'est l'Église qui dirige tout. Bon. Par exemple, prenez l'exemple classique, c'est la création du monde. Bon, la création du monde. Pourquoi est-ce que le monde moderne ne peut pas supporter le mot création ?
Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de
l'univers. Parce que qui dit création dit créateur, évidemment. Donc, qui dit créateur dit loi à suivre. Si j'ai un créateur qui a créé, ça veut dire que le créateur il m'a donné un mode d'emploi pour ce qu'il a créé, évidemment. Je suis machine à laver, il ferait mieux de lire le mode d'emploi avant de brancher la machine, d'accord ? Eh bien, Dieu est créateur. Si Dieu est créateur, ça veut dire qu'il est au-dessus, que je suis en dessous.
Donc, il y a une autorité
et je dois suivre. Donc, les modernes refusent complètement l'idée de création. Parce qu'ils refusent l'idée de dépendance. Je suis un être indépendant. Je ne servirai pas parce que je ne suis pas créé, je me fais moi-même. Ça, c'est le monde moderne. Mais il faut bien comprendre, c'est pas évident de comprendre tout ça, parce qu'on est tellement imprégné de ces idées modernes, on a un mal fou. Hein? Donc, quel est le contraire de du créationnisme ? On est créationniste ou on est évolutionniste ?
Ah ouais.
L'évolution, ben c'est tout simple, c'était Dieu n'a rien à voir là-dedans, tout s'est fait tout seul. Tout s'est fait tout seul.
Darwin.
C'est Darwin, et c'est même pire que ça. Les idées modernes, c'est encore pire que ça. Tout s'est fait tout seul, tout à fait au début. Il y a eu d'abord un Big Bang, avec une énergie épouvantable, extraordinaire, qui a fait éclater, dans l'univers. Quand on pose la question de savoir d'où venait cette énergie, personne ne répond. Et puis il y a des petits acides animés, des petites molécules de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'hydrogène qui se promenaient. La décharge électrique a flanqué le bazar là-dedans. Et hop, on s'est trouvé des petits acides animés. Quand on pose la question, mais l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, le calcium, le carbone et tous ces trucs-là, tous ces atomes initiaux, d'où ça vient ? Qui les a créés ? On les a créés tout seuls. Vous avez déjà vu la complexité d'un atome ? Même un atome le plus simple, atome d'hydrogène, un électron qui tourne autour d'un noyau à 300 000 km/s et qui reste autour du noyau, essayez de prendre un virage en épingle à cheveux à 50 à l'heure, vous allez voir ce qui va vous arriver. La voiture continue tout droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énergie qui va pousser la voiture en dehors de la route. Et bien, imaginez que les atomes ils font des virages à... Plus que 50 à l'heure, ils font les virages, ils prennent les virages qui sont des épingles à cheveux à 300 000 km/s. Pas mal quand même. Et ils restent en ligne. Qu'est-ce qui est capable d'inventer des forces pareilles ? Personne. Vous voyez ? Donc il ne faut pas avoir le cœur, il ne faut pas avoir peur de rappeler ces vérités qui sont absolument essentielles. Donc, à la base, c'est ça. C'est où j'accepte l'autorité de Dieu, et je suis créationniste, et je reconnais qu'il y a un créateur, donc j'ai une obligation d'obéir à Dieu. Et c'est, vous allez faire les exercices bientôt, hein, deux d'entre vous. C'est la première phrase des exercices. Donc, dans le livre des exercices, la première phrase, elle parle de la création. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. L'homme a été créé. Donc, puisque j'ai été créé, j'ai des devoirs. Quand vous dites ça à quelqu'un de moderne, il attrape des boutons sous le bout de son nez immédiatement. Parce que l'homme moderne ne peut pas supporter l'idée qu'on ait des devoirs. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Des droits. C'est pour ça qu'ils nous parlent à longueur de journée des droits de l'homme. Pendant l'exercice de Saint-Ignace, je ne vais pas vous dire un seul mot sur les droits de l'homme. On va vous parler des droits de Dieu, des devoirs de l'homme. Vous voyez ? Donc, tout est justement dans cette... interprétation traditionnelle. Donc il faut encore une fois ne pas avoir peur quand les principes scientifiques s'opposent à la foi catholique, c'est les principes scientifiques qui ont tort, c'est tout. Vous avez tout dans... Prenez la première phrase de la Bible, il y a tout dedans. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Pourquoi la terre ? Pourquoi est-ce que Dieu a dit, au début, Dieu créa le ciel et la terre ? Pourquoi il n'a pas dit, Dieu créa le ciel et l'univers, ou le ciel et les planètes ? Non, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi la terre ? Pourquoi la terre est mentionnée en premier ? Pourquoi la terre est au centre de tout ?
C'est l'origine.
C'est ce que lui donne la vie.
Et une autre raison.
C'est le substrat.
Quelle est la raison pour laquelle la planète Terre a un rôle tout particulier dans l'ordre de, dans l'ordre voulu par Dieu ?
Ah, pour la création. Et l'humanité, parce que l'homme non.
Pour Adam et Ève.
Non. Plus profond que ça. C'est que la Terre est le lieu de l'incarnation. C'est le lieu, le seul lieu dans le monde dans lequel l'homme, Dieu va devenir homme. C'est le Dieu, la création, l'élément, l'événement le plus important de l'histoire du monde, c'est quoi ? C'est l'incarnation. Dieu se fait homme. L'ange Gabriel qui vient voir la très sainte Vierge Marie, qui lui demande l'autorisation de devenir, pour elle, son consentement pour devenir la mère de Dieu. Fiat, Miki, Secondo, Verbum Tuum. Au moment précis où la très sainte Vierge Marie a donné son accord, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, quand notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, s'est incarné dans son sein, comme une tête d'épingle, ça c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Dieu qui se fait homme pour que l'homme puisse monter au ciel. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire incarnation ?
Prendre chair.
In carnis, carnis, c'est la chair. Il y a des mots qui viennent de là. Le mot charnel, par exemple, fait de chair, ça vient de carnis. Incarnis, incarnation, prendre chair. Donc l'incarnation va mener à l'autre mystère. Quel est le bout, la ligne ? L'incarnation mène à quoi ?
La rédemption.
Eh bien, exactement. Donc pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme ? Il est devenu homme pour mourir, par ligne. Est-ce que Dieu peut mourir ? Non, puisqu'il est éternel. Donc il a fallu que Dieu prenne, s'unisse à une nature créée, la nature humaine, pour pouvoir mourir sur la croix. Donc Dieu ne pouvait pas mourir. Est-ce qu'un homme peut nous sauver des péchés ? Non. Donc il fallait que ce sacrifice offert par notre Seigneur Jésus-Christ soit offert par quelqu'un qui soit à la fois Dieu et homme. En tant que Dieu, il peut effacer nos péchés. En tant qu'homme, il peut mourir pour nous sur la croix. Et par sa mort sur la croix, il a rétabli la vertu de justice en réparant le péché. Oui. Et ça, c'est absolument, absolument essentiel. C'est pour ça que la terre est au centre de tout, parce que la terre est l'unique lieu qui va recevoir l'incarnation. C'est pour ça qu'actuellement, ils poussent tellement sur les extraterrestres. Ils ont déjà vu un extraterrestre ? Jamais. Ils ont vu l'ombre d'un extraterrestre, un quart de poil d'extraterrestre ? Jamais. Ils dépassent des milliards et des milliards et des milliards pour essayer de prouver qu'il y a des extraterrestres. Pourquoi ils dépensent tout cet argent ? Quel est le but ?
Effacer Dieu.
Essayer de prouver que la Bible s'est trompée, donc que Dieu a tort. Vous voyez ? Il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de ces vérités-là qui sont essentielles. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est au centre de tout. C'est pour ça que, personnellement, je suis absolument géocentrique, c'est-à-dire, je pense que tout tourne autour de la terre, parce que la terre, justement, est la place centrale, c'est l'unique place qui va être choisie par Dieu, qui a été choisie par Dieu pour devenir la place où va se réaliser le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. D'accord ? Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y a que deux créatures qui ont une raison, qu'une intelligence. Quelles sont ces deux créatures ? Quelles sont les deux créatures raisonnables créées par Dieu ?
L'homme et la femme.
Il y a l'homme en général, et puis quelle est la deuxième créature ? L'ange. Les hommes et les anges, point final. Quelle est la différence essentielle entre l'homme et l'ange ?
L'esprit, la matière, l'abstraction.
L'homme est une union d'un corps et d'une âme, alors que l'ange est un pur esprit. Donc l'ange comprend les choses par intuition. Nous, on comprend les choses par abstraction. C'est-à-dire qu'on utilise notre corps pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a des yeux, qu'on a des oreilles, qu'on touche les choses. En touchant, en regardant, en écoutant, en utilisant les cinq sens, on obtient des renseignements sur ce qui se passe à l'extérieur et ça va provoquer une espèce d'image, photo, qui va se fixer à l'intérieur de notre cervelle. On appelle l'image. Si l'image qui est imprimée dans notre cervelle correspond à ce qui est à l'extérieur, on est dans le vrai. S'il y a une différence entre les deux, on est dans le faux. D'accord ? Maintenant, je ne peux pas comprendre les choses comme ça. Pourquoi ?
Intuition. Il n'y a pas de corps.
Il n'y a pas de corps ? Exactement. Donc, est-ce qu'un ange peut voir ? Non. Est-ce qu'un ange peut sentir ? Ben non, parce que pour voir et pour sentir et pour toucher, il faut un corps. Il n'y a pas de corps. Donc, un ange va comprendre les choses 10 millions de fois plus vite que nous, parce que justement, il n'a pas de corps. Le corps nous ralentit énormément. D'accord ? Donc, ne pas avoir peur, parce que quand on parle de ces choses-là, les gens disent, même sur la beuve, on n'est pas compte, au Moyen-Âge, on croyait ces choses-là, mais plus maintenant. N'ayez pas peur. En face, ils ont dépensé des milliards et des milliards pour essayer de trouver les extraterrestres. Ils n'ont jamais trouvé l'ombre d'un extraterrestre, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que si l'extraterrestre existe, c'est un être intelligent. Or, le seul être intelligent qui existe en dehors de la Terre, c'est les démons, bons et mauvais. Attention, les mauvais démons, il y a les mauvais anges et bons anges. Les deux ont une nature spirituelle, donc une nature raisonnable. Attention, ils sont raisonnables. Donc l'ange bon et l'ange mauvais ont tous les deux une intelligence. Bon, donc il ne peut pas y avoir d'autre intelligence en dehors de ça. Ça, faites attention aux termes que vous utilisez. Les gens nous parlent tout le temps, ben, mon chien est super intelligent. Mais non, votre chien n'est pas intelligent du tout. Il a des réflexes plus ou moins conditionnés, il a un instinct plus ou moins conditionné, il n'a aucune intelligence. J'ai déjà vu un oiseau qui, au mois de mars, se lève le matin, il tend ses ailes, il dit, tiens, aujourd'hui j'ai construit mon nid, parce que j'ai décidé de construire mon nid. Mais non, pas du tout. C'est parce que Dieu a mis dans la nature de l'oiseau, le printemps arrive, je construis mon nid. Il ne réfléchit pas, pourquoi? Par contre, nous, on est supposé réfléchir, pourquoi? Parce qu'on a une intelligence qu'a pas l'animal. D'accord? Donc, encore une fois, ne pas avoir peur. Les gens ont peur. On disait, ah, même sur la baie, avec ces fusées intercontinentales là, qui partent dans l'espace, on va finir par découvrir des choses qui vont démontrer des choses contre la foi. Aucune crainte à avoir. Il ne peut rien avoir contre la foi. C'est absolument impossible. Là, ils sont partis, ils ont dépensé des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Rien. Un peu de poussière, puis c'est tout. D'accord ? Bon, donc ça, c'est... Donc, on peut parfaitement reconnaître que tout est justement fondé, tout est fondé sur l'homme, tout est fondé sur Dieu et la terre est au centre de tout. C'est ce qu'on appelle la position géocentrique. Géocentrique, ça veut dire quoi? Qu'elle est au centre. Donc la terre est au centre de tout l'univers tourne autour de la terre, justement parce que l'univers est le lieu de la rédemption et l'incarnation. Vous voyez? Alors, tout ce qu'on découvre à côté de ça, tout ça tourne. Tout tourne autour, finalement, tout tourne autour de la Terre. Vous voyez ? Alors, ils vont de plus en plus loin, et qu'est-ce qu'ils découvrent ? Rien du tout. Ils n'en savent strictement rien. Ils vous racontent des bêtises à longueur de journée. Vous voyez ? On a glorifié, par exemple, Galilée. Mais Galilée s'est trompé complètement. Galilée pensait que la Terre tournait autour du Soleil. Et si on est géocentrique, c'est le contraire. En fait, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Si on est géocentrique. Parce que vous êtes obligé d'être géocentrique. Attention, l'Église ne l'a jamais imposé comme dogme de foi. Mais c'est évident, justement, à cause notamment de la première phrase de la Bible. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Donc tout est centré, en fait, tout est centré non pas sur l'homme, tout est centré sur Dieu. Donc vous avez deux conceptions de la vie, où on centre tout sur Dieu fait homme, où on centre tout sur l'homme fait Dieu. Dieu fait homme, on centre tout, c'est une conception qu'on appelle une conception théocentrique. Pourquoi théos ? Théocentrique, parce que théos en grec, ça veut dire Dieu. Ou une conception humaniste, ou une conception homocentrique, anthropologique, anthropocentriste. C'est-à-dire une conception entièrement fondée sur l'homme. Donc dans le monde moderne, on voit très bien, l'homme prend la place de Dieu, comme ça l'homme peut faire sa propre vérité. Et c'est ça, le modernisme. Rappelez-vous l'idée géniale, l'explication géniale donnée par Saint-Pie-X, la maladie intellectuelle qui empêche le modernisme de penser droit, c'est quoi ? C'est le subjectivisme, c'est chacun fait sa propre vérité, à chacun sa vérité. D'accord ? Alors, autre point. Je professe, dit Sapidis, dans ce serment antimoderniste, d'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée, ou bien pis, qui admettent le divin dans un sens panthéiste. Il faut expliquer les mots. Donc il y a plusieurs traditions. Bon. Il y a une tradition orale et une tradition écrite. Quelle est la première dans l'ordre du temps ?
Orale.
Parce qu'au début, il n'y a pas d'écriture. Bon. Quand on est dit, même quand on est dit avec les protestants, tout est dans la Bible, c'est vrai d'une certaine façon. Mais attention, il y a des choses écrites avant la Bible. Quand les protestants disent l'écriture seule, sola scriptura, et l'évangile est écrit quand ? Premier évangile a été écrit par Saint Matthieu, plusieurs années après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'ai plus les dates avec moi, mais je crois que c'est une dizaine d'années après le premier évangile, écrit par Saint Matthieu, une dizaine d'années, même moins que ça, 7 ans, je crois, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin du premier siècle, les 4 évangiles étaient écrits. Mais entre l'envoi des apôtres, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et l'arrivée du premier évangile écrit, qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres ? Ils jouaient au golf ? Ben non, ils évangélisaient. Est-ce qu'ils avaient une tradition écrite ? Non. Sauf l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est arrivé après, avec les premiers textes écrits justement par les évangélistes. Ils ont commencé à écrire après. Donc la première des traditions, c'est la tradition orale, qui va être suivie par la tradition écrite. Et encore dans la tradition écrite, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que la tradition écrite, il y a des tas de textes. Lesquels sont de Dieu là-dedans ? Qui a décidé le canon des Écritures ? Qui a décidé que l'évangile de Saint Matthieu était un évangile révélé ? L'évangile de Saint Luc, l'évangile de Saint Marc, l'évangile de Saint Jean. Mais l'évangile de Thomas, il n'est pas écrit, il n'est pas protégé par l'inhérence biblique. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la Sainte Écriture. Qui a décidé ça ? Les protestants, qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus ? Tout est dans la Bible. Qui a décidé quels étaient les livres de la Bible ? Ouais. C'est l'Église catholique, par dit. Donc même les protestants sont bien obligés de reconnaître, ben oui, c'est les catholiques qui ont décidé tel livre dans la Bible, tel livre ne l'est pas. Quand est-ce que c'était fait ça ? Qui est-ce qui a donné le canon des Écritures ?
Concile de
Nicée,
je crois.
Non. Concile de
Trente.
Concile de Trente. C'est bon, le Concile de Trente, c'est le Concile de Trente qui a donné le canon des Écritures de façon définitive. Il y avait déjà, au début, il y avait les hommes d'Église n'étaient pas entièrement d'accord sur les différentes choses qui étaient vraiment révélées. Est-ce que telle partie était révélée ou non ? Et ça a été décidé de façon définitive et infaillible par le Concile de Trente, justement, pour dire, voilà le canon des Écritures. Ce qu'on appelle le canon des Écritures. Canon, ça veut dire quoi ? C'est la règle. Les choses qui ne peuvent plus changer. D'accord ? Alors, il faut éviter, nous dit Saint-Pédis, je répète la phrase, je professe n'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée. Donc les modernistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Il n'y a pas de tradition divine, c'est une tradition humaine, c'est les hommes qui ont fait la tradition. Les modernistes vont jusqu'à dire, notre Seigneur Jésus-Christ ne savait pas qu'il était Dieu. Il a découvert au fur et à mesure. Et c'est en fait les pères de l'Église, plus exactement les apôtres, qui avec les écrits des évangiles, se sont convaincus eux-mêmes que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Mais en fait, il n'a jamais enseigné qu'il était Dieu. Pas ce que disent les modernistes. Vous voyez ? C'est ahurissant, des choses comme ça. Mais c'est ce que disent les modernistes. Les modernistes vont dire que la tradition n'est pas sacrée, que tout a été inventé par les hommes. C'est pour ça que les modernistes vont reculer au maximum la date d'écriture des évangiles. Donc ils vont dire, les modernistes disent, vous les catholiques, vous prétendez que les premiers évangélistes ont écrit très tôt, et c'est ça qui a fait la tradition écrite. En fait, l'Église n'a jamais enseigné ça, ce sont des choses qui sont faites petit à petit au cours de temps, et petit à petit, les évangélistes et les pères de l'Église, les premiers pères et les premiers papes, ont inventé l'histoire que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. C'est eux qui l'ont inventé. En fait, dès le départ, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours enseigné sa divinité. Vous voyez ? Donc attention à ça. Donc il faut admettre la divinité de la tradition de l'Église catholique pour éviter le panthéisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le panthéisme ?
Mettre Dieu en toute chose.
Voilà, panthéisme, c'est enlever la distinction entre le créateur et la créature. Il y a un créateur et des créatures. Un créateur et des millions de créatures. Si on supprime la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux façons de supprimer la différence entre le créateur et la créature. Première façon, on abaisse le créateur au niveau de la créature. Deuxième façon, on élève la créature au niveau du créateur. Dans les deux cas, on arrive au même niveau. Il n'y a plus de différence entre le créateur et la créature. C'est ça le panthéisme. Et le panthéisme donc enseigne, ça c'est le modernisme aussi, enseigne qu'il n'y a plus de différence entre le créateur et la créature. S'il n'y a plus de différence entre le créateur et la créature, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'homme devient Dieu. Puisqu'il n'y a plus de différence entre lui et son créateur. Il n'y a plus de créateur. C'est pour ça que les modernistes ne peuvent pas supporter le mot création. Ils parlent du mot évolution, mais jamais du mot création. Donc pour eux, il n'y a plus de différence entre le créateur et la créature, donc l'homme devient Dieu. Le propre de Dieu, c'est de faire la vérité. Si l'homme devient Dieu, conséquence ?
Il n'y a plus de
vérité. Non ?
Hein ?
Il n'y a plus de vérité ?
Non, au contraire. Chaque homme fait sa propre vérité. C'est ça le subjectivisme. Dieu, si Dieu est Dieu, c'est lui qui donne la vérité. Et si l'homme devient Dieu, comme il y a des milliards d'hommes, il y a des milliards de dieux. À chaque Dieu sa vérité, donc à chacun sa vérité. Et c'est le modernisme.
C'est la guerre.
Donc le modernisme, c'est en fait du panthéisme.
C'est l'anarchie.
Et c'est la conclusion de Saint-Pélis. Le modernisme, c'est une certaine forme de panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi ? C'est cette erreur qui consiste à dire qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et Dieu. L'homme devient Dieu. Donc ça, c'est fondamental à comprendre, parce que c'est toutes les idées modernes qui sont résumées là-dedans. Le panthéisme résume toutes les idées modernes. L'homme devient Dieu. Donc il faut respecter l'homme qui est devenu Dieu. C'est les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme vont remplacer les droits de Dieu. Comment s'appellent les droits de Dieu ? Qu'est-ce qui résume les droits de Dieu ?
Les
commandements. Exactement. Donc les droits de l'homme vont remplacer les droits de Dieu. Et c'est comme ça qu'un type comme Macron a le culot de dire « Les lois républicaines sont au-dessus des lois divines. » Comme un certain culot pour dire une chose pareille. Et bien il a dit, et les évêques sont tous tués, ils n'ont pas dit un mot. Les lois républicaines dominent les lois divines. Ça veut dire que Dieu, d'après Macron, doit s'humilier derrière les lois de la République. Conséquence, les lois républicaines sont au-dessus des lois divines. Et donc, vous avez le droit d'avoir une croyance en Dieu, une croyance en l'Église, une croyance au dogme de la foi catholique, de façon privée. Mais dès que vous sortez dehors, vous devez vous humilier, vous devez accepter le nouveau Dieu, qui est le Dieu républicain. Donc le Dieu républicain, c'est quoi ? C'est la trinité républicaine, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, on voit très bien comment il y a une incompatibilité totale entre cette façon de voir les choses et la façon catholique de voir les choses. Vous voyez, c'est absolument, absolument fondamental. Le problème, c'est que les évêques modernes sont à fond là-dedans. Il faut voir un petit peu ce qu'ils sont en train de sortir actuellement. Vous savez qu'il y a un synode qui se prépare pour 2023.
Non, le synode de la synodalité.
Le synode qui se prépare pour 2023, qui va être en fait Vatican III, tout simplement. Ah oui. Il faut voir déjà ce qu'ils amènent.
Ils sont ambitieux.
Donc ils ont déjà commencé à amener, les évêques allemands ont déjà demandé la dépénalisation de l'avortement, dépénalisation de l'homosexualité. Maintenant, ils amènent de plus en plus, ils amènent l'idée de la femme qui devient prêtre. Bon. Et ce qui se passe actuellement, vous avez déjà en Allemagne des évêques qui ont commencé à faire des liturgies pour l'homosexualité. Ça commence à se faire aussi en France. Rome, silence complet.
Ah bon, oui.
Toujours la même chose, on ne dit rien, on laisse faire les choses. Comme ça nous permet, s'il y a un peu trop de remous, du oui, quand même, c'est un peu exagéré, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Pourquoi ? Parce que tout change, tout doit évoluer, et c'est en fin de compte l'homme qui devient Dieu. Si l'homme est devenu Dieu, l'homme peut faire ce qu'il veut. Si l'homme peut devenir Dieu, la volonté de l'homme devient la volonté divine. Vous voyez ? Et on voit très bien. C'est pour ça que derrière la foi catholique, quelle est la vertu fondamentale derrière la foi catholique ? La première vertu dont on a besoin pour accepter la foi catholique ?
L'humilité.
Quel est le contraire de l'humilité ?
L'orgueil.
Donc on voit très bien, l'humilité permet de conserver la foi, l'orgueil détruit la foi. Et rappelez-vous, lorsque Saint-Pie X va condamner le modernisme, rappelez-vous les trois racines du modernisme qui sont
l'orgueil, l'ignorance, l'amour de la nouveauté.
Et la, bien, très bien. L'orgueil, l'ignorance et la curiosité ou l'amour des nouveautés. En fait, quand derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'orgueil. Vous voyez donc je reprends ce paragraphe, on va finir le texte là. D'une manière générale, je professe n'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des modernistes. Chut, silence aérant. Je professe n'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée. Donc nous, on répond au contraire que la tradition représente la loi divine. Et les modernistes admettent le divin dans un sens panthéistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une divinité séparée de l'humanité. L'homme devient Dieu. Puisque l'homme devient Dieu, l'homme a le droit de faire sa propre volonté, sa propre vérité, à chacun sa vérité. Et ça mène, ce panthéisme a mené ce que j'appelle les trois faisceaux, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est Saint-Pie X, les trois faisceaux d'erreurs qui sont contenus dans le modernisme, qui sont les racines, c'est orgueil, ignorance, amour des nouveautés. Et après, ceci va se manifester par ce qu'on appelle les faisceaux d'erreurs qui résument tout modernisme. Immanentisme, évolutionnisme, agnosticisme. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Bien sûr, j'ai expliqué moi 20 fois.
Au début,
oui. Ah oui, au début, mais vous avez déjà tout oublié. Pourquoi il faut toujours tout répéter?
J'avais dit 8 fois.
Immanentisme, agnosticisme et évolutionnisme. Bon. Le modernisme, c'est ça. Le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc trois choses, immanentisme, évolutionnisme, agnosticisme. Mais vous bien savoir ce que c'est. Comme j'ai déjà expliqué, vous avez tous m'expliqué, évidemment. L'agnosticisme, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un agnostique.
On doute qu'il y a un Dieu, quoi.
C'est plus que ça. C'est plus que le doute universel. Si je suis incapable d'être sûr de quoi que ce soit. Donc la vérité n'existe pas parce que chacun a sa vérité. Agnosticisme. Donc tous les philosophes modernes sont tous agnostiques. Ça veut dire... Chacun croit ce qu'il veut. Chacun sa vérité. Vous voulez croire que Dieu existe, très bien. Et moi, je crois le contraire. En fait, on peut être sûr de rien.
Ça, par gloire personnelle. Voilà.
Deuxième faisceau d'erreur, l'immanentisme. Immanentisme, manere, ça veut dire rester, in, dans. L'immanentisme, c'est l'erreur philosophique qui consiste à dire que je fais à l'intérieur de moi-même ma propre vérité, à chacun sa vérité. Immanentisme. Et enfin, évolutionnisme. La vérité n'existant pas de façon fixe, la vérité n'existant pas extérieurement à ma volonté, donc chacun fait sa vérité, la vérité n'existe pas, mais est une évolution constante. Donc ça, c'est les fameuses thèses de Marx et de Engels, Hegel aussi, thèse, antithèse, synthèse. La vérité n'existe pas parce que tout tourne. Bon, c'est l'idée, si vous voulez, que vous voyez un fleuve qui passe devant vous, l'eau du fleuve est toujours différente parce que ça change tout le temps. Et donc c'est la fameuse thèse, antithèse, synthèse, c'est le monde moderne. La thèse c'est quoi? La thèse c'est, par exemple, Dieu a créé l'homme. L'antithèse c'est Dieu n'existe pas. Et la synthèse c'est un mélange des deux. Donc je prends une première vérité. Je dis la contre-vérité de la première vérité. Je mélange les deux et j'ai une autre vérité à laquelle on va associer une deuxième contre-vérité. On mélange les deux choses et on a une troisième vérité. On associe une contre-vérité, on mélange les deux, on a la vérité numéro 4, etc. Donc une évolution constante. Qui dit évolution constante dit qu'on peut être sûr de rien du tout. Tout change. Et ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas paniquer du tout, mais ce qui va, enfin, il faut pas s'étonner. Ce qui arrive, ils sont en train de préparer là. Ils sont en train de préparer Vatican III, sans dire le mot. Ils parlent d'un synode. En fait, c'est un Vatican III qu'ils sont en train de préparer. Mais Vatican III va préparer Vatican IV, parce qu'il y aura toujours des petits malins qui après Vatican III vont toujours dire qu'on n'est pas encore allé assez loin. Vous voyez ? Alors maintenant, on arrive à n'importe quoi. Là, ils veulent. Là, c'est clair et net. Ils veulent. Ils poussent énormément sur la reconnaître que l'homosexualité est quelque chose de parfaitement normal, et ils veulent pousser aussi sur, à cause de l'égalité entre l'homme et la femme, sur l'ordination des femmes. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver, mais ça va être toujours la même chose. Il va y avoir des évêques, ça va arriver. Vraisemblablement en Allemagne, ou en Hollande, qui ont commencé à ordonner des femmes prêtres, et Rome va rien dire. Ou Rome va dire une petite tape sur la main, oui, c'est pas très gentil ça, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Et puis, dans la pratique, on laisse faire, et c'est exactement ce qu'il fait actuellement. Bon, ils n'osent pas dire, Bergoglio n'a, à ma connaissance, jamais dit que l'homosexualité est une bonne chose. Il n'a jamais dit ça. Il laisse faire les choses pour que les gens puissent accepter les situations de ce genre. Vous voyez ? Alors, il faut savoir répondre aux arguments. Qu'est-ce que vous disent les gens ? Les gens vont vous dire, l'homosexualité est une bonne chose, qui doit être acceptée parce que c'est naturel. Est-ce que l'homosexualité est naturelle ?
Oui. C'est un
Il n'y a pas de reproduction.
Si. Attention, il faut bien comprendre l'erreur derrière. Ouais. L'homosexualité est quelque chose de naturel. Attention. De même que, est-ce que l'addiction au vin, est-ce que c'est quelque chose de naturel ? Est-ce qu'il y a des gens qui, naturellement, aiment boire 3 bouteilles de whisky tous les jours ? Oui. Il y a des gens qui, naturellement, dans leur nature, se disent, moi, je suis porté à boire 3 bouteilles de whisky tous les jours. Okay. Il y a des gens qui vont vous dire, voler le portefeuille du voisin, c'est naturel pour moi.
Oui, mais c'est dans leur conscience.
C'est ça, on retrouve la liberté de conscience, là. D'accord. Et c'est ça, et là, il faut faire attention, parce que moi, je n'avais pas compris ces trucs-là tout à fait au début. Parce que quand j'étais aux États-Unis, on commençait à parler, c'est à ce moment-là qu'on a eu la fameuse phrase « Get out of the closet », sortez des tiroirs. D'accord. Et donc tout le monde, tous les homosexuels ont commencé à sortir. Bon. Et moi, je croyais au début que l'homosexualité était quelque chose qui venait du péché. C'est-à-dire qu'on devenait homosexuel parce qu'on était corrompu par des mauvais copains, par des mauvais films, par des mauvaises fréquentations qui faisaient de vous des homosexuels. Mais j'en ai rencontré qui sont catholiques, qui se battent contre l'homosexualité, et qui me disent, monsieur l'abbé, je suis un homme, je n'ai jamais été attiré par les femmes, je suis attiré que par les hommes. Donc l'homosexualité est quelque chose de naturel dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Oui. Attention, dire que c'est naturel, ça ne veut pas dire que c'est bon.
C'est
la distinction qu'il faut faire.
Voilà.
De mot naturel. C'est vrai que c'est naturel, c'est-à-dire que, est-ce que l'homosexualité est quelque chose qui vient de l'extérieur ? Non, il y a des gens qui, malheureusement, naissent avec ces tendances. On peut dire une tendance naturelle.
Mais il y a quelque chose.
C'est une tendance. Mais comme de même qu'il peut y avoir des gens qui naissent avec une tendance à une tachycardie, par exemple, ou un problème circulatoire, c'est une tendance naturelle, c'est dans le sens que c'est dans leur nature. Est-il vrai, on pose la question d'une autre façon, est-il vrai qu'un homosexuel est attiré, un homme homosexuel est attiré que par les hommes et pas par les femmes ? C'est vrai, c'est dans sa nature. Mais, où est le mais ? Le péché originel. Donc, si je suis attiré par quelque chose qui est naturel pour moi et qui va contre la loi divine, je dois dire non. Moi, j'ai connu des homosexuels qui sont battus contre leur tendance, qui gardent leur tendance. Ils ont toujours, ils me disent, je suis toujours avec ces tendances-là, mais ils se confessent très régulièrement. Ils évitent soigneusement les occasions de péché. C'est quoi les occasions de péché pour un homosexuel ? C'est les bars homosexuels, c'est les lieux où ils se rencontrent entre eux. C'est là les catastrophes. Mais je connais des homosexuels qui sont devenus des véritables saints. C'est-à-dire qu'ils se battent contre les mauvaises tendances, ils se confessent très souvent, ils communient, ils disent leur chapelet tous les jours, et ils vivent en terre grâce.
Seulement,
est-ce qu'ils sont toujours homosexuels ? Oui. Donc, qu'est-ce qui est pécamineux ? C'est pas l'homosexualité qui est pécamineuse, c'est la pratique de l'homosexualité. Vous voyez, quand ces distinctions sont importantes. Bon, c'est comme quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, mon père est un poivreau, mon grand-père est un poivreau, mon arrière-grand-père buvait 3 bouteilles de whisky tous les soirs, et moi je suis un poivreau. C'est dans ma nature. Alors, monsieur l'abbé, vous me donnez l'absolution, mais je continue de boire 3 bouteilles de whisky tous les soirs. Je refuse d'être l'absolution. Je lui dis, c'est sans doute dans votre nature, parce que à cause du milieu familial dans lequel vous venez, donc c'est quelque chose de naturel pour vous, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bon. Parce que c'est un vice de la nature. La nature humaine, à cause du péché originel, n'est plus une nature parfaite. La seule personne qui a une nature parfaite, c'est qui ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. nous, à cause du péché originel, on peut avoir des tendances naturelles qui sont mauvaises. Attention, il faut bien comprendre le sens du terme. Quand je dis tendance naturelle, c'est-à-dire tendances qui viennent de ma nature. Et effectivement, il y a des gens, je connais des gens, qui sont tentés par l'alcool de façon terrible. Et qui ne boivent pas une goutte d'alcool parce qu'ils le savent, qu'ils prennent les moyens pour, et qu'ils ont pris comme résolution de ne jamais toucher une goutte d'alcool. Ben, chapeau ! Ces gars-là, ils ont un moyen extraordinaire de se sanctifier. Je connais les homosexuels, c'est terrible la vie des homosexuels catholiques. Ils savent que c'est un péché. N'oubliez pas que le péché d'homosexualité est classé dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel. C'est pas la nature. C'est la pratique de l'homosexualité qui est un péché qui crie vengeance contre le ciel. Mais l'homosexuel qui lutte contre sa mauvaise tendance, par la confession, par la communion, est-ce qu'il peut se sauver ? Bien sûr ! Mais il doit évidemment faire très attention de ne pas tomber dans cette homosexualité. Et encore une fois, j'ai connu des homosexuels qui vivent en état de grâce, qui se confessent, qui communient. Mais c'est terrible pour eux, parce qu'ils ne peuvent jamais se marier, évidemment. Ils ne peuvent, pas suivre la vie religieuse. Parce qu'on n'accepte jamais un homosexuel, quelqu'un a des tendances homosexuelles dans la vie religieuse. Donc c'est les gens pour lesquels toutes les portes sont fermées. Ils n'ont plus qu'une seule chose, c'est rester tout seul. C'est terrible, parce que les gars me disent, moi j'ai dit des homosexuels en pleurs, si vous savez, j'aimerais bien me marier, mais je ne peux pas parce que j'ai aucune attirance pour les femmes. J'aimerais bien rentrer en vie religieuse. Vous me dites que ce n'est pas possible à cause de ma tendance, je fais quoi? C'est exactement la même chose pour quelqu'un qui a une tendance à la boisson. On peut avoir une tendance à la boisson qui vient. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. C'est vrai que quand on dit que c'est une tendance naturelle, il faut bien comprendre le sens du terme. Tendance naturelle dans le sens que ça fait partie de la nature de cette personne. C'est pas parce que vous avez une tendance naturelle que ça veut dire que la tendance naturelle est bonne parce qu'elle est naturelle. C'est ça l'erreur, justement. C'est nous faire croire que tout ce qui est naturel est bon. Ben non. Bon, si vous avez une tendance naturelle qui vous pousse à aller piquer la femme du voisin, bon, c'est peut-être une tendance naturelle que vous avez, mais il y a un bon Dieu qui vous dit tu ne désiras pas la femme du voisin. Donc on utilise la confession, la communion, la prière, la pénitence pour lutter contre la tentation. Bon. Quand les gens me disent, il faut respecter ces tendances, vous devez respecter cette tendance. Très bien, monsieur. Monsieur, sachez que moi, j'ai une tendance, comment on appelle ça, de
kleptomane.
Voilà, c'est l'exemple toujours que je donne. J'ai une tendance à la kleptomanie, je viens de vous piquer votre portefeuille, il faut respecter cette tendance. Vous le gars, mon portefeuille. Ben non, il est là. Ben oui, mais si je vous l'avais piqué, qu'est-ce que vous aurez dit? Il fallait me le rendre. Ben non, c'est ma tendance naturelle, il faut respecter ça. Donc moi, votre portefeuille est au fond de ma poche, et il reste au fond de ma poche. Je prends les billets, je vous le rends. Et vous respectez ça, c'est votre tendance naturelle. Vous voyez comment ils détruisent tout en utilisant des mots avec une mauvaise tendance. Il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est la grande différence qui existe entre le moderniste et le catholique, c'est que le moderniste dit « l'homme est bon ». Qu'est-ce que dit le catholique ? Est-ce qu'on a le droit de dire que l'homme est bon ? Non, parce qu'il y a le péché originel. Donc, si l'homme est bon, toutes les tendances naturelles de l'homme sont bonnes. Donc il faut respecter l'homosexualité, il faut respecter la libronnerie, il faut respecter tous ces machins-là. Si vous dites l'homme n'est pas bon, l'homme est corrompu par le péché originel. Ça veut dire qu'il y a dans l'homme des tendances naturelles qui doivent être contre lesquelles il faut lutter, parce que justement elles sont inacceptables, parce qu'elles vont contre la loi de Dieu. La loi de Dieu c'est pour tout le monde. La loi de Dieu c'est pour tout le monde. Donc si j'ai une tendance qui me pousse à quelque chose de dépravé, ben, le bon Dieu va me donner des grâces par les sacrements pour que je puisse lutter contre cette tendance, vous comprenez ? C'est ça qu'il faut faire attention au terme. Hein? Parce que moi, j'ai eu souvent des parents qui sont venus en pleurs en disant « Monsieur l'abbé, mon fils vient de me révéler qu'il est homosexuel, qu'est-ce que je fais ?» Bon, qu'il y a une tendance homosexuelle. Quand un jeune vient me voir, parce que ça arrive, c'est quelque chose qui arrive, qui vient me voir en disant « Monsieur l'abbé, j'ai une tendance homosexuelle, je fais quoi ?» Je lui dis « Mais vous savez que cette tendance est mauvaise ?» Vous allez utiliser les moyens que vous donne l'Église pour lutter contre cette tendance. Alors on donne des moyens, se confesser très régulièrement, entre autres, communier très souvent, dire son chapelet tous les jours, et éviter comme la peste les gens qui sont comme eux. Ça c'est la grande règle d'or. Éviter comme la peste les endroits où vous allez rencontrer les gens qui sont comme vous. Et à ce moment-là, je connais des gens qui ont cette tendance-là, qui vivent en état de grâce. Vous voyez ? Donc il faut faire attention, c'est comme exactement quand les gens, ça c'est une objection, il faut savoir répondre à ces objections. Les païens me demandent, possible. Monsieur l'abbé, si vous étiez père de famille catholique et votre gamin de 18 ans vient de vous annoncer qu'il est homosexuel, comment réagissez-vous ? Je réponds, je réagirais de la même façon que si mon fils de 18 ans vient me dire « Papa, je viens t'avouer une chose, je suis devenu un ivrogne et je bois 3 bouteilles de whisky maintenant tous les soirs. Je te demande de respecter ça. » Parce que j'aime mon fils, je vais aider mon fils à sortir de l'ivrognerie. Parce que c'est une tendance qui est mauvaise. J'aime mon fils, si mon fils m'annonce qu'il prend une tendance qui est contre nature, contre la nature voulue par Dieu, à cause de la corruption de sa nature, je vais aider mon fils à sortir de cette sphère, ce puits infernal, pour qu'il vive en état de grâce. Et j'ai connu, je connais des gens qui sont comme ça et qui vivent en état de grâce. Il faut faire attention à ce qu'on dit, vous voyez. Mais c'est pas une tendance homosexuelle qui est pécamineuse, c'est la pratique de l'homosexualité. Vous voyez ? C'est comme, je donne un exemple de comprendre. Imaginez un homme de 18 ans qui me dit « Monsieur l'abbé, je suis attiré par les jolies filles. » J'espère bien que vous êtes attiré par les jolies filles, j'espère que vous n'êtes pas attiré par les moches. Bon, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est normal qu'un homme soit attiré par les jolies filles. Est-ce qu'il y a un péché à un homme de me dire « Monsieur l'abbé, je suis attiré par les jolies filles ? » Bien sûr. Bon, c'est comme si une femme me disait « Monsieur l'abbé, je suis attiré par les beaux gosses. » Ben, c'est parfaitement normal. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous avez le droit d'aller vers les beaux gosses et faire des bêtises avec eux ? Bien sûr que non. Est-ce que parce que vous êtes attiré par les jolies filles, vous avez le droit d'aller chercher la jolie fille à côté et puis faire des bêtises avec elle ? Bien sûr que non. Parce qu'il y a la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu ne détruit pas la nature. La grâce ne détruit pas la nature. La grâce élève la nature. La nature est toujours là. La nature, elle est corrompue. Sauf si votre nom est très sévère, le mari. Ah, c'est pratique. Il n'y a que les conceptions, mais à ma connaissance, il n'y en a qu'une. Voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est la conclusion, si vous voulez. C'est que le modernisme, c'est d'abord un naturalisme qui détruit toute influence de la grâce. C'est pour ça que c'est des goûts collecteurs de toutes les hérésies, dans le sens que le naturalisme empêche le travail de la grâce. Je lis la conclusion de Saint Pédis. Je reprends les deux derniers paragraphes. D'une manière générale, je professe, dit Saint Pédis, d'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée, ou bien pis, qui admettent le divin dans un sens panthéiste, j'ai expliqué. Si bien qu'il ne reste plus qu'un fait pur et simple à mettre au même niveau que les faits de l'histoire, les hommes, par leurs efforts, leur habileté, leur génie, continuant à travers les âges l'enseignement inauguré par le Christ et ses apôtres. Pour conclure, je garde très fermement, dit Saint Pédis, et je garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le charisme certain de la vérité, qui est, qui a été et qui sera toujours dans la succession de l'épiscopat depuis les apôtres, non pas pour qu'on tienne ce qu'il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge de pouvoir tenir, mais pour que jamais on ne croie autre chose, ni qu'on comprenne autrement la vérité absolue et immuable prêchée depuis le commencement par les apôtres. La foi, l'espérance, la charité divine. Dieu est un roc qui ne change pas. Donc la vérité divine ne change pas. Vous voyez ? Donc les choses ne changent pas. C'est la perception, c'est la corruption des intelligences qui fait que les gens aujourd'hui considèrent comme normal des choses qui ne sont pas normales du tout. Au Moyen-Âge, il n'y a pas besoin d'expliquer que la pratique de l'homosexualité est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'était évident. De temps en temps, on en voulait rien. Bon, ça calme tout le monde. Bon, maintenant, où est le drame ? Le drame, c'est que le monde est tellement pourri qu'on nous fait croire que ce sont des choses, que la pratique de l'homosexualité devient quelque chose de normal. Non. On peut avoir une mauvaise tendance, Dieu nous donne les grâces de lutter contre les mauvaises tendances. Si je suis moderniste, je vais dire, les mauvaises tendances n'existent pas, puisqu'à chacun sa vérité, donc chaque tendance doit être respectée, y compris si la tendance consiste à tuer tous les enfants, à tuer tous les vieillards, ou à voler les épouses du voisin. Vous voyez ? Mais donc ça c'est un résumé. Saint Pédis, dans son texte, là, résume de façon extraordinaire, justement, et résume toute la ce qu'est le modernisme. Mais encore une fois, il faut bien avouer ce qui est. C'est pas facile de définir le modernisme parce que c'est les goûts collecteurs de toutes les hérésies. C'est une espèce de méli-mélo de toutes les erreurs qui ont été prononcées. Vous voyez, le modernisme va donner, par exemple, une des conséquences du modernisme, c'est le Nouvel Âge. Pour le nouvel âge, c'est toutes ces idées qui passent dans la philosophie. La vérité n'existe plus. L'âge du Christ est terminé. Et on passe maintenant à l'âge du verso. L'âge du poisson est terminé, parce que le poisson, c'est le symbole du Christ. L'âge du poisson est terminé. On passe maintenant à un nouvel âge dans lequel ce n'est plus Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, mais l'homme qui devient Dieu. Vous voyez ? Voilà, bon, on va arrêter là. Donc, attention, encore une fois, surtout que ça a passé sur Internet. Donc, pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc, je n'ai pas dit que l'homosexualité est une chose bonne. Je veux dire qu'il peut y avoir des mauvaises tendances naturelles et c'est la pratique de l'homosexualité. Et je résumerai en deux mots. Si quelqu'un me dit au confessionnal, monsieur l'abbé, j'ai des tendances homosexuelles, est-ce que je peux aller au ciel ? Réponse, oui. À condition que vous évitiez la pratique de ces mauvaises tendances. Monsieur l'abbé, j'ai une tendance à boire trop, est-ce que je peux aller au ciel ? Oui, si vous luttez contre ces mauvaises tendances. Monsieur l'abbé, j'ai une tendance au vol, j'ai une tendance à la violence, j'ai une tendance à donner des baffes à ma femme. Est-ce que je peux aller au ciel ? Oui, si vous arrêtez de donner des baffes à votre femme. Bon, mais si vous donnez des baffes à votre femme tous les matins, elle va finir par vous la rendre. Bon, deux fois pure, ou elle va, vous allez tout détruire. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pas tout mélanger. Les gens modernes mélangent tout. C'est ça qu'il faut reprendre les bases. Voilà, on va arrêter là et on va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.